et sur ses épaules, une brebis. Malheureusement, il y a quelques semaines, ce berger a été décapité par un de mes 3 petits-fils. Je ne vais pas vous dire son nom, mais il ne s'agit pas de celui qui n'a que 7 mois. Je lis. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Ou alors, l'Éternel est mon berger. Ou alors, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près de l'eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Ou dans d'autres versions, ton bâton et ta houlette, voilà ce qui me rassure. Verset 5, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen et Alléluia. Le psaume 23, qui parle de la bonté de Jésus. Le psaume 22 parle de la mort de Jésus. Le psaume 24 parle du retour de Jésus. Le bon berger. J'ai quelques mots à dire en introduction. Et le premier mot va arriver. Ah, je vise. Non, ça ne va pas venir. Bon. Premier mot d'introduction. Il y a plusieurs versions de ce psaume. Il y a des cantiques qui existent, basées sur ce psaume. Et il y a même des chansons du monde, inspirées par ce psaume. Pink Floyd a enregistré une chanson sur un album basé sur le psaume 23. U2 a fait une chanson basée sur le psaume 23. Et j'ai répertorié une bonne centaine de cantiques et de chansons mondaines basées sur ce psaume. Troisièmement, ce cantique, quand c'est chanté, convient à 2 événements particuliers dans les églises anglophones, que ce soit aux US, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Ce cantique est facilement chanté lors d'un mariage chrétien et lors d'un enterrement chrétien. J'ai assisté à des mariages et à des enterrements chrétiens où ce cantique a été chanté. Ça convient aux deux. Et si vous le lisez bien, vous comprendrez. Troisièmement, 2 visages me viennent à l'esprit quand je lis ce psaume. Le premier visage, c'est le visage d'un ami qui est ancien dans une église dans le nord de la France aujourd'hui. Il s'est converti dans un TGV en traversant la Bretagne, en lisant ce psaume. Il regardait par les fenêtres, il voyait des centaines de brebis. Il lisait ce psaume où David dit « L'Éternel est mon berger ». Et cet ami s'est dit « Mais je n'ai pas de berger. Même ces brebis, elles ont un berger ». Et cet ami, en lisant d'autres textes, dans le TGV, à 300 km/h, il s'est converti. Un autre visage qui me vient à l'esprit, c'est celui d'une sœur qui est d'ailleurs dans la même église, elle est dans les 85 ans aujourd'hui. Il y a peut-être 20 ans, j'ai officié à l'enterrement de sa sœur. Et lors de la mise en bière, on était dans la chambre de la sœur, elle était dans le cercueil qui était ouvert, à l'époque c'était permis, dans une maison, et j'ai lu le psaume 23 avant de prier, avant la fermeture du cercueil. Et à côté de moi, il y avait une dame que je ne connaissais pas. Et pendant que je lisais, elle récitait par cœur le psaume 23. En discutant avec elle après, j'ai compris que c'était quelqu'un qui faisait partie de cette église-là des années auparavant, qui avait décidé de se marier avec la mauvaise personne, et après des années de souffrance, et puis de divorce, et encore de souffrance, elle s'était éloignée du Seigneur, et en récitant par cœur le psaume 23, elle est revenue au bon berger. Et elle se donnait au Seigneur de nouveau. Et aujourd'hui, elle est au culte, certainement, là où nous étions il y a quelques années, dans le nord de la France. Un s'est converti, l'autre est revenu au bon berger grâce à ce psaume. American Idol, c'est une émission à la télévision aux États-Unis. C'est un peu l'équivalent de La France a un incroyable talent ou La Nouvelle Star. Et il y a quelques années, 10-12 ans, tous les finalistes devaient chanter un chant, une chanson ensemble. Et je ne sais pas qui l'a choisi, mais ils ont décidé de chanter un cantique que nous chantons parfois, « Ô Jésus, mon Sauveur ». Et de temps en temps, je reclique sur ce clip pour regarder ces chanteurs et pour louer le Seigneur. Ceci dit, quand ils ont chanté ça en direct à la télévision américaine, ils ont changé les paroles. Ils n'ont pas chanté « Ô Jésus, mon Sauveur ». Ils ont enlevé le mot « Jésus ». Ils ont chanté « Mon berger, mon Sauveur ». Bon, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça ne voulait rien dire. Mais ils ont choisi de chanter « Mon berger ». Alors, en dessous du clip sur YouTube, il y a plusieurs commentaires. Et une des premières personnes dit « Il faut dire à ces chanteurs que c'est Jésus qui aime le berger, mon berger. » Autre chose, il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent de Dieu comme un berger. Le psaume 28, 80, 100, Ésaïe 40, Ésaïe 53, Ézéchiel 34, Michée 4, Luc 15, Jean 10, Hébreux 13, 1 Pierre 2. Et il y en a certainement d'autres. Et si je devais résumer ce psaume, voilà 4 mots. Intimité, sérénité, sécurité, éternité. Ou si vous préférez, il y a un aspect reposant. Il y a un aspect réconfortant. Il y a un aspect rassurant. Il y a un aspect réjouissant. Reprenons le premier verset. Dans ce premier verset, c'est à la fois une affirmation et une déclaration. David, qui était berger de métier, rappelons-le, il affirme, il déclare haut et fort, l'Éternel est mon berger. Il prend cette image de Dieu comme un berger et lui-même comme une brebis. Dans la Bible, il y a plusieurs images pour décrire la relation entre Dieu et un être humain. Dieu est parfois appelé le potier. Et les gens sont appelés de l'argile. Dieu est parfois appelé un père. Et les chrétiens, ses enfants. Et ici, Dieu est appelé le berger. Et les chrétiens sont des brebis. Et il dit, je ne manquerai de niette, rien. Mais, il faut faire une distinction entre mes envies et mes besoins. En ce qui concerne mes besoins, Dieu pourvoira aux besoins de ses brebis. Il n'est nulle part écrit qu'il pourvoira aux envies de ses brebis. Vous avez des envies, j'ai des envies. Vous avez des besoins, j'ai des besoins. Et faisons confiance en Dieu pour subvenir à nos besoins. Il y a eu d'autres versions du psaume 23, je disais ça tout à l'heure, mais je vais utiliser le mot « version » un peu autrement. C'est-à-dire, il y a eu des parodies du psaume 23. Il y en a deux que j'ai sous les yeux, il y a trois à vrai dire, et je suis tenté de vous lire ces deux-là. Une parodie s'appelle « La télévision et mon berger ». Je vous le lis. Vous allez voir les parallèles et les contrastes. La télé est mon berger. Ma vie spirituelle manquera de tout. Elle me fait reposer dans un fauteuil confortable. Elle me dirige vers une vie inutile et tranquille. Elle divertit et pourrit mon âme. Elle restaure le vieil homme. Quand je suis menacé par les conséquences de mes choix, j'ignore tout mal, car tu m'aveugles. Ton écran et tes programmes, voilà mon réconfort. Tu remplis ma tête d'illusions, et je me laisse conduire par tes vaines idées. Oui, la superficialité et la futilité m'accompagneront aussi longtemps que tu existeras. Hélas, je n'habiterai jamais dans la maison du Seigneur. Par contre, j'habiterai dans ma maison, pauvre, malheureux et paresseux. La télévision, si elle remplace le berger, voilà comment nous allons vivre. Une jeune fille qui était droguée a écrit au sujet de l'héroïne. Elle a laissé ça avant de mourir. Et ce texte était trouvé dans une cabine téléphonique il y a quelques années. Le roi héroïne est mon berger. Je manquerai toujours de tout. Il me fait reposer dans les égouts. Il me conduit dans les eaux troublées. Il détruit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la perversion à cause de ses effets. Oui, je marcherai dans la vallée de la pauvreté et de la peur. Car toi, héroïne, tu es avec moi. Ton aiguille et ton ampoule essayent de me réconforter. Elles ôtent de ma table toute nourriture en présence de ma famille. Tu prives ma tête de toute raison. Ma coupe déborde d'amertume et de tristesse. Certainement, l'envie de l'héroïne me traquera tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison des paumés pour toujours. Prions pour ceux qui, pour qui l'héroïne est le bon berger. Prions pour ceux qui pourraient nous dire, mais la télé, c'est mon bon berger. Ils ont besoin de découvrir le vrai bon berger. Je ne manquerai de rien. Versets 2 et 3, nous avons ce que Dieu pourrait faire, ou ce que Dieu fait pour le chrétien. Vous remarquez, David dit 4 fois, « Il me ». Qu'est-ce que Dieu fait pour lui? Eh bien, tout simplement, il dit, « Dieu, tu me fais prendre du repos, tu me donnes la paix, tu me m'aides à vivre en paix, tu me diriges, tu me donnes les forces et tu me conduis. » Voilà 4 choses que Dieu veut faire pour tout chrétien. Nous conduire, nous diriger, nous donner la paix. Mais parfois, le chrétien, comme certaines brebis, n'aime pas toujours suivre le bon berger de près. Et quand on s'éloigne du bon berger, on n'a plus sa conduite. On ne sait plus quelle direction on doit prendre. On n'est plus en paix. Quelqu'un tout à l'heure a prié et a fait allusion justement à c'est un dicton maintenant, ouais. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Et en traversant les campagnes, on voit de temps en temps une brebis qui met sa tête entre les fils de les barbelés et puis en train de manger d'un côté, même si c'était mal à sa poitrine. Parce que c'est mieux là. Et parfois les chrétiens pensent que c'est mieux ailleurs, en dehors de la bergerie. Mais Dieu veut nous conduire. Il veut nous diriger. Il est aussi question du repos et du sommeil ici. Il me fait reposer. Alors, je vais vous expliquer les éléments qu'il faut pour une brebis, pour qu'une brebis fasse un gros dodo, sans problème. Il faut que 4 éléments soient réunis pour qu'une brebis dorme bien. Il faut qu'elle soit sans crainte. Il faut qu'elle n'ait aucune tension avec les autres brebis dans le troupeau. Il faut qu'elle soit pas embêtée par des insectes, des parasites, des mouches, des bébêtes de toutes sortes. Et il faut qu'elle ait bien mangé. D'ailleurs, je suis un peu comme ça aussi, d'ailleurs. Est-ce que vous voyez les parallèles avec un chrétien? Qu'est-ce qui nous empêche de dormir parfois? Parfois, c'est la peur. Parfois, on s'est disputé à table avec quelqu'un, ou la semaine avant, ou 6 mois avant, et on tourne ça toujours dans la tête parce qu'on est en tension avec quelqu'un, chrétien, non chrétien, dans la famille, au boulot, peu importe. Ça nous empêche parfois de dormir. Parfois, on est tourmenté par des parasites, des pensées, des idées noires. Et puis, parfois, un chrétien n'a pas un estomac bien plein. Quel est le parallèle? Est-ce qu'on connaît notre... Est-ce qu'on a une bonne alimentation spirituelle? Est-ce qu'on a un régime équilibré en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu? Si je ne lis que les psaumes pendant toute ma vie, je passerai à côté de tant de belles choses. Si je ne lis les évangiles seulement toute ma vie, je passerai à côté de tant de choses. On avait quelqu'un à la maison il y a quelques mois qui a dit, je ne lis que les épîtres. C'est que ça. Mais la personne passe à côté de tant de choses. Il faut un régime équilibré en tant que chrétien, en tant qu'individu et en tant qu'église. Et je peux vous dire que les anciens de cette église veillent sur l'enseignement biblique pour qu'ils ne fassent pas que l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament, que des personnages, que des thèmes. Il faut un régime équilibré. Et si vous regardez l'enseignement biblique depuis quelques années dans cette église, vous allez voir que il y a ancien, nouveau, personnage, thème. On essaye de donner une nourriture équilibrée. Verset 4, verset 5. Après avoir parlé du berger, David parle au berger. Versets 1, 2 et 3, il dit « il ». Versets 4 et 5, il dit « tu ». Il s'adresse à son bon berger. Et il dit « même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal ». Dans une autre version, il est écrit « même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal ». Et vous savez, quand on dit ombre, on dit lumière, qui fait de l'ombre, qui crée l'ombre. Et même quand on est dans une vallée, que ce soit la vallée du désespoir, la vallée de la déprime, la vallée de la mort ou autre, il y a toujours la lumière qui vient du ciel. Il y a toujours la présence du Seigneur si nous lui appartenons. Parfois, on ne ressent pas sa présence. Parfois, on ne voit pas sa présence. Mais Dieu nous demande de toujours croire à sa présence. La présence du berger, même quand on ne le voit pas. Il est question aussi du bâton du berger. Alors, je ne fais pas de publicité pour une certaine marque de saucisson sec. C'est difficile à dire avec un teveur sous la langue. C'est saucisson sec, je crois bien. Je regarde ma chère étendue. Oui, le bâton du berger. Bon, si vous ne connaissez pas, oubliez ce que je viens de dire. Mais il est question du bâton du berger ici. Et le bâton du berger est signe de son autorité. C'est aussi une arme offensive et défensive pour faire peur au loup. Et aussi pour protéger le troupeau. Et parfois, si une brebis va s'éloigner, si le berger a son bâton, il crie un bon coup, il siffle, il secoue, il agite le bâton, et parfois, il envoie son border collie, hein, un chien écossais, son chien berger, pour faire revenir la brebis errante, ou la brebis galeuse. Et aussi, le bâton est synonyme de discipline. Il faut un coup sur les fesses parfois. Vous savez, j'étais chez un ami il y a 2-3 ans qui est berger. Il a des centaines de brebis. Les brebis avaient eu des centaines d'agneaux. Et on se promenait dans le champ, et des brebis, elles ont toutes la même tête. Et puis il y avait 2-3 qui étaient en train d'essayer de casser une barrière pour aller de l'autre côté. Parce que l'herbe est bien sûr plus verte de l'autre côté. Et lui, ce berger qui s'appelle David d'ailleurs, me dit, David, c'est toujours les mêmes. Je les reconnais. C'est toujours les mêmes qui font les mêmes bêtises. Et je dis, comment tu peux les reconnaître? Ils sont tous identiques. Mais pour lui, c'est pas le cas. Et quand le Seigneur nous voit, on a tous la même tête dans un sens. Mais le Seigneur, il voit au-delà de la tête. Il voit le cœur. Et il nous connaît tous par notre nom. Et parfois, hein, une brebis a besoin d'un coup sur les fesses. Et puis, la houlette qui est là-haut, c'est pour aller chercher une brebis, pour la ramener au troupeau. Ou parfois, le berger prend sa houlette, il met ça autour du cou, très gentiment, de la brebis, pour l'approcher, pour regarder dans sa tête s'il n'y a pas de parasites ou des insectes ou des mouches ou quelque chose qui l'embête. Et puis, si nécessaire, il verse de l'huile sur la tête pour guérir la brebis. Alors, bien sûr, on peut encore voir des parallèles dans la vie du chrétien. Le Seigneur, avec son bâton, il fait autorité. Il est le Seigneur. Il est le potier. Il fait ce qu'il veut. Et parfois, il a besoin de nous donner un coup de bâton sur les fesses. Parce qu'on a tendance à s'éloigner. On a tendance à ne pas croire. Et comme dit Hébreux 12, comme un père discipline ses enfants parce qu'il les aime, le Seigneur discipline ses enfants parce qu'il les aime. Un coup de bâton, ça ne fait pas de mal à un chrétien. Et parfois, Dieu doit nous le faire. Et aussi, parfois, le Seigneur, avec ses houlettes, nous fait revenir pour nous ausculter, pour voir ce qu'on a dans le cœur, pour voir ce qu'on a dans la tête. Pas seulement sur la tête, mais dans la tête. Et parfois, on a besoin de se laisser sonder par son esprit pour qu'on puisse voir, mais voilà ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur. Pardonne-moi. Encore en verset 5, il est question de trois choses. Une table, de l'huile et une coupe. Tu dresses devant mes ennemis une table. Vous vous rendez compte? On a des ennemis prêts à nous attaquer. Et le Seigneur nous dit, viens t'asseoir. J'ai préparé un super repas pour toi. Les ennemis sont tous là, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Détends-toi. Enjoy. Mange. Réjouis-toi. Parfois, devant nos ennemis, on a tendance, on a envie de fuir. Parfois, devant nos difficultés, on essaye de fuir. Parfois, comme l'autruche, on met la tête dans le sable pour faire semblant que ça n'existe pas. Mais devant nos problèmes, devant nos challenges, devant nos défis, devant nos difficultés, le Seigneur veut nous aider à faire face et être paisible et à manger comme il faut et à lui faire confiance malgré le nombre de nos ennemis. Même si une armée se campe contre moi, le psaume 27, dit David, malgré ça, je ne craindrai rien. Si j'avais une armée contre moi, je crois que je ne serais pas brillant. Mais avec confiance dans le Seigneur, une armée de problèmes, le Seigneur nous aide à faire face, à condition qu'on lui fasse confiance. Oh, pardon, de l'huile. De l'huile sur la tête, c'était utilisé pour soigner les brebis. Et encore, le Seigneur prend soin de nous et il veut nous soigner. On a des bobos, des petits, des blessures, des cicatrices, parfois qui s'ouvrent, qui se ferment, qui se rouvrent, qui se referment. Le Seigneur connaît tout ça et nous demande de nous approcher de lui pour lui en parler, pour tout décharger à ses pieds, pour qu'il prenne soin de nous. Et puis il dit, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Alors, figurez-vous, ce psaume, bien sûr, était écrit il y a 3000 ans, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Et à l'époque, si j'étais invité chez quelqu'un, la personne dirait, tiens, David, prends un café. Non, oui, le café n'existait pas, peut-être il y a 3000 ans, mais bon, bref. Il me donnerait une coupe, pas une coupe, une tasse vide. Il verserait le café. Et puis, le café va remplir la tasse et déborder. Et ça, c'est un signe de politesse et de générosité de la part de la personne qui m'accueille. Et si ma tasse était moitié pleine, je pourrais m'offusquer parce que oh, je ne suis pas le bienvenu. La personne est heureuse d'avoir un ami, une amie en visite. Et quand il dit, Seigneur, ma coupe déborde, Eh bien, c'est parce qu'il est conscient que Dieu est un Dieu généreux et qu'il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire la prochaine fois que je vais chez vous, si vous m'invitez, sur une moquette bien blanche, donnez-moi 3 litres de café dans une petite tasse. Ça va me brûler les doigts et ça va salir la belle moquette. Mais c'est pour dire que le Seigneur est un Dieu généreux. Il sait de quoi nous avons besoin. Et il pourvoit nos besoins en son temps, à sa façon. Et comme on lit dans Éphésiens 3, 20, 21, il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, penser ou réaliser. Il nous bénit au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et pour terminer, verset 6, ce psaume qui a commencé avec une déclaration et une affirmation, se termine avec une déclaration, une affirmation. Oui, dit-il, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, aucun doute, le bonheur et la grâce. Même s'il n'y en a rien, on a le bonheur de se savoir pardonné, de se savoir sauvé, de se savoir adopté dans sa famille, et nous avons la grâce du Seigneur. Bonheur et grâce. Il y a des commentateurs qui ont dit, ah mais ça me fait penser au chien berger. Peut-être le Seigneur, en tant que bon berger, il a deux chiens bergers. Un mâle qui s'appelle bonheur, une femelle qui s'appelle grâce. Et comme les chiens bergers suivent le troupeau et suivent le berger, de même, le bonheur et la grâce suivent et accompagnent les chrétiens. Et David finit en disant, oui, je serai avec le bonheur et la grâce jusqu'à ce que je vienne dans ta maison, jusqu'à la fin de mes jours. Alors, c'est quoi la maison de Dieu? On dit, ben, c'était le temple. Mais le temple n'était pas encore construit. Le temple a été construit des décennies après. Mais je pense que c'est plutôt David pense à l'éternité. Et il dit en somme, pendant toute ma vie terrestre, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et pendant toute ma vie céleste, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que Dieu est un bon berger. Je termine avec 2 choses qui se sont passées il y a longtemps. J'ai rencontré des chrétiens qui ont été persécutés et qui avaient appris ce psaume par cœur et qui vivaient sans Bible grâce à ce psaume. Qui survivaient parfois, mais qui vivaient grâce à ce psaume. Et je connais 2 chrétiens que j'ai rencontrés et d'autres que je n'ai pas rencontrés qui sont morts avec la paix dans leur cœur grâce à ce psaume. En 1681, 2 femmes à Édimbourg. Alors pour certains parmi vous, quand je vais vous donner leur nom, vous allez sourire. Une s'appelait Isabelle et l'autre s'appelait Marion. Ça vous dit quelque chose dans l'église ici? En tout cas, Isabelle et Marion allaient être brûlées vives pour leur foi en Christ. Alors, elles ont chanté le psaume 84. On leur dit, est-ce que vous aviez un dernier mot? Elles ont entonné toutes les 2 le psaume 84. Après ça, l'huissier, on va dire, l'huissier de justice a lu le chef d'accusation. Et pendant qu'il lisait tout ce qu'ils avaient fait comme crime, c'est-à-dire, elle lisait la Bible, c'est-à-dire, elle parlait de la Bible, c'est-à-dire, elle croyait en Jésus seul, etc., etc. Quand il lisait tout ça, la foule qui était là a entonné simultanément le psaume 23. Et ils ont chanté à tue-tête le psaume 23, à tel point que le pauvre bonhomme qui lisait le chef d'accusation n'arrivait pas à crier plus fort que la foule qui chantait le psaume 23. Et, oui, je fais ça comme s'ils avaient un micro. Ils n'avaient pas de micro. Mais bon, vous comprenez. Et ces 2 sœurs sont mortes en chantant le psaume 23. Est-ce qu'il y a une plus belle façon de mourir? Et puis l'année avant, 1680, un certain Alan Cameron était en prison pour sa foi et un gardien a ouvert sa cellule et dans le sud de l'Écosse, et a jeté par terre deux mains. Il a dit, est-ce que vous connaissez ces mains? Et il a dit, ben oui, je les connais et je les aime. C'était les deux mains de son fils, pasteur, qui avait été tué, décapité et les mains coupées. Et le père a dit quelques mots dans les larmes, et puis il a dit, mais vous savez, Dieu est bon. Il ne pourra jamais me faire du tort. Le bonheur et la grâce m'ont toujours accompagné, et le bonheur et la grâce vont continuer à m'accompagner. Et lui aussi est mort en prison pour sa foi. Mais il savait que Dieu était un bon berger, même si son fils avait été tué injustement, il savait que le bonheur et la grâce étaient là. Que Dieu nous aide à pouvoir dire la même chose avec nos petits bobos, oui, avec nos grandes épreuves. Prions. Seigneur, merci car je peux, et beaucoup ici peuvent dire, l'Éternel est mon berger. Seigneur, merci car tu connais nos envies, mais tu connais nos besoins. Merci pour tous ceux, depuis des siècles, ont été convaincus de la vérité et des vérités dans ce psaume. Et merci Seigneur, parce que tu nous as fait entrer dans ton troupeau, dans la bergerie. Pardonne-nous lorsque nous pensons que parfois c'est mieux ailleurs, ou que c'est mieux avant. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à nous contenter et à nous réjouir d'être tes brebis. Et aide-nous, Seigneur, à suivre notre bon berger. Merci car Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, je les connais, et personne ne les ravira de ma main. Merci pour la sécurité dans ta main. Et merci pour l'éternité avec toi, avec le bonheur et la grâce. Aide-nous à toujours croire, pendant cette vie terrestre, que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. En son nom, nous te le demandons. Amen.